soit on modernise l'existant avec des plans de transformation, des gros sujets, enfin voilà, des gros navires organisationnels, soit on décide d'avoir un autre modèle, qui est le modèle reconstruction from scratch, qui lui est aussi porté par d'autres éléments d'accélération. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine folie, effectivement, pour certaines personnes qui nous regardaient en disant « Mais pourquoi reconstruire un moteur? On en a déjà 4 qui fonctionnent. » Donc oui, ça c'est vrai que c'était ce qui rendait, on va dire, la proposition dérangeante, parce que effectivement, elle venait adresser le cœur de métier, acteur de la protection sociale.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, votre moment pour plonger dans les entreprises à mission. Mon objectif est simple, que ce concept prenne forme pour vous, qu'il nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et surtout une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Aujourd'hui, je reçois Quentin Sauvé, fondateur et CEO de Jagi. Jagi, c'est un peu la mutuelle nouvelle génération, très engagée, très digitale et très tournée sur les clients. Et puis, ça ne fait pas de mal, c'est une entreprise à mission depuis sa création en 2020. Bref, de belles raisons de passer un peu de temps avec Quentin. Mais il n'y a pas que ça. L'aventure de Jagi a commencé par un projet d'intrapreneuriat qu'il a porté lorsqu'il était salarié chez Clésia. Il s'est d'ailleurs fendu de 10 conseils pour les intrapreneurs qui constituent tout simplement le fil rouge de notre échange. Ils permettent de bien structurer l'épisode et surtout, ils sont très pertinents. C'est vraiment la colonne vertébrale de cette première partie. Toujours dans la bonne humeur et dans la plus grande transparence, vous verrez. J'ai passé un moment très très agréable avec Quentin et j'espère que ça se sentira et que vous en profiterez tout autant. Sans plus attendre, je laisse place à notre échange. Bonjour Quentin.
Salut Vivien.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast de La Machine à Sens, ça me fait très plaisir.
Parce qu'on avait... Plaisir partagé.
On avait eu l'occasion d'échanger une première fois et je me suis dit, je suis sûr qu'à un moment donné, Quentin interviendra sur le podcast, donc ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui. Donc on est dans les locaux de Jagi, qui est à Paris, mais également à Rennes, on reviendra dessus un peu plus tard. Mais avant de rentrer justement dans le vif du sujet, une petite présentation de toi, je te laisserai corriger, amender... ou compléter si besoin. Donc Quentin Sauvé, je dirais que tu es un intrapreneur engagé. Après un début de carrière assez classique, comme auditeur, puis consultant en stratégie opérationnelle, tu as rejoint Clésia en 2017 et progressivement, tu as ouvert un nouveau chapitre de ta vie, celui de l'intrapreneuriat engagé. Tu as d'abord cofondé Ma Boussole Aidant, qui est une plateforme de ressources à destination des aidants. Un petit rappel utile quand même, on compte environ 8 millions de Français qui ont un rôle d'aidant auprès d'un proche fragilisé par la maladie, un accident, la vieillesse ou un handicap. Donc c'est quand même un sujet assez sérieux. Et tu es encore sociétaire aujourd'hui de Ma Boussole Aidant. Mais je sais pas, tu as été piqué quand même par l'envie de continuer dans la création. Et donc t'es tourné vers la création d'un autre projet d'intrapreneuriat avec Jagi, qui est donc une mutuelle, une complémentaire santé, qui se veut moderne par son usage de la tech, et qui est en plus une entreprise très engagée, mais on reviendra dessus après. Par ailleurs, pour qui te suit sur LinkedIn, parce que tu es quand même assez actif, et je pense qu'on peut assez facilement dire que si les gens ont envie de te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn, tu assumes ton côté un peu utopiste pragmatique. Les entreprises, et en premier lieu les entrepreneurs pour toi, ont un rôle à jouer pour accélérer l'engagement au sein de la société. Alors au sein de leurs organisations déjà, mais également à titre individuel. Donc tu n'hésites pas à mentionner les projets que tu peux soutenir, et financièrement d'ailleurs. Et derrière tout ça, j'ai un peu la perception que tu veux véhiculer un nouveau modèle de réussite, qui soit plus distributif et pas uniquement centré sur le gain financier. Des éléments à ajouter, corriger?
Ouais, c'est pas mal. super présentation, hyper flatteuse d'ailleurs, et pas grand chose à rajouter. Effectivement, je suis plutôt aligné avec tout ce que tu viens de présenter. Je pense qu'il y a un mot sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu évoques, c'est le pragmatisme, au-delà de l'utopie. Je pense que l'utopie, maintenant, il faut en avoir, on en a tous, et effectivement, j'en ai. Mais le pragmatisme... c'est vraiment le cœur du réacteur de notre quotidien d'entrepreneur maintenant. Parce que les belles idées, c'est bien, c'est sympa, mais je pense qu'on est à à un moment, on va dire, de notre société où le pragmatisme, l'action et l'engagement, c'est ça qui primera, peu importe le rôle que l'on peut porter en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, en tant que consommateur. On a tous un peu notre rôle à jouer, et soyons pragmatiques pour pouvoir participer aussi positivement à ces enjeux de société, parce qu'on fait aussi partie des optimistes.
Bah, tout à fait. J'ai été comme toi pragmatique dans la préparation de cet entretien, parce que tu as donné 10 conseils d'intrapreneuriat sur LinkedIn, et je me suis dit que c'était un parfait moyen de parler un petit peu de Jagi, de l'origine du projet, de là où il en est, un petit peu de l'organisation en interne, de la relation avec un grand groupe, en l'occurrence Clésia. Donc je te propose qu'on les reprenne un à un.
Ouais, avec plaisir.
Et on va commencer par le premier. Et puis en même temps, ça fera aussi, je pense, c'est un bon moyen pour les faire revenir sur le devant de la scène. Hein. On les retrouve sur ton profil LinkedIn d'ailleurs. Je les mettrai dans les notes de l'épisode. Donc le premier, c'est oser aller à contre-courant. C'était intéressant parce que là, tu t'expliquais un petit peu le 99% versus 1%. Est-ce que tu peux expliquer justement l'origine de Jagi, comment ça t'est un peu venu et justement pourquoi oser aller à contre-courant?
Ouais, clairement, ça c'est un peu par accident que je me suis retrouvé dans cette posture d'intrapreneur. J'ai toujours eu envie d'entreprendre, je m'en suis jamais vraiment caché. Oser aller à contre-courant, c'est effectivement un moment où justement j'allais sauter le pas pour entreprendre. J'avais pas envie de faire partie de ceux qui à 45 ans allaient dire « Ah, j'ai toujours eu envie d'entreprendre » et qui sont jamais lancés. Donc j'ai posé ma démission du groupe Clésia à l'époque, sur lequel je bossais sur des projets divers et variés, stratégie, organisation et puis innovation. Et à ce moment-là, mon boss de l'époque m'a dit « Mais tu veux partir, ok, mais tu veux entreprendre, ok, toujours. Et pourquoi tu tenterais pas l'aventure avec nous ?» Parce que au sein du groupe, il y a de belles choses à faire, tu connais les enjeux, il y a des enjeux de transformation. Et donc là, effectivement, c'est là que l'aventure est née, en fait, de cette double intention, la mienne qui était d'entreprendre et celle d'un dirigeant visionnaire qui m'a dit « pourquoi pas tenter chez nous ?» Et le seul truc que je lui ai posé, c'était pas vraiment des conditions, mais c'était de dire « Ok, j'ai effectivement, on a des petites idées qu'on avait déjà évoquées ensemble. L'idée, par contre, c'est de le faire sur un autre mode que celui que vous avez l'habitude de faire dans un grand groupe. » C'est là où mon aventure démarre, sur un format intrapreneuriat, parce qu'effectivement j'ai eu la chance d'être hébergé au sein du groupe pour pouvoir lancer ce projet, même si je l'ai porté tout seul. Et donc oser aller à contre-courant, c'était faire tout ce qui était contraire à un mode de fonctionnement actuel que l'on pouvait retrouver au sein du groupe, sur plein de sujets. Sur la méthode, sur les modèles organisationnels, sur les types de compétences. Et c'était d'accepter de dire à des gens, en fait, ça fait 30 ans que tu le fais, t'es expert du sujet, et moi, je vais le faire complètement différemment. Donc d'ailleurs, au début, on ne dit pas trop. Voilà, on se cache, et puis on travaille un peu dans un garage, c'est notre garage à nous. J'agis au démarrage, c'était une petite salle dans le 18e arrondissement qu'on avait loué dans un espace coworking et au sein duquel on a décidé d'aller au contre-courant et de réinterroger le modèle économique de la protection sociale pour y comprendre ses enjeux de transfo et sa projection d'un point de vue marché, parce que la question de départ c'était ça. Que va devenir le monde de la protection sociale, complémentaire santé et prévoyance, à l'aune des nouvelles technologies, de la révolution des usages et de la révolution également sociétale, sur plein de pans, environnemental, sociétal, social, etc. Et donc oser aller à contre-courant, c'était ça. C'était faire un truc qui est complètement orthogonal à tout ce qui se faisait au sein du groupe. J'étais contraire à la roadmap IT, j'étais contraire à la roadmap organisationnelle de certaines directions. Et ce qu'on s'est juste dit, c'est qu'il fallait qu'on crée un laboratoire pour pouvoir essayer de créer. Donc effectivement, au début, quand on lance ces idées-là, c'est un vrai contre-courant. Et le 99 versus 1%, c'est effectivement 99% de gens qui vous disent, quand on leur pitch l'idée, « Non mais c'est n'importe quoi, reconstruire une mutuelle de la feuille blanche. » Enfin, c'est complètement utopiste. Il y a des problèmes techniques, organisationnels, etc. Donc plein de sujets. Et puis il y a 1% qui dit mais c'est quand même pas con cette idée. Et ça vaut peut-être le coup d'essayer de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça a démarré et j'ai eu la chance de pouvoir le lancer parce que j'ai aussi eu des dirigeants et ils sont peu nombreux, mais qui ont dit ok, on fait confiance à ce jeune trentenaire entrepreneur qui nous dit qu'on va réinventer on va réinventer un peu la roue, en tout cas la refaire un peu différemment. Et donc c'est aussi pour ça que c'est pas juste moi ma volonté d'entreprendre, c'est aussi une volonté qu'à rencontrer des gens qui ont accepté d'aller à contre-courant avec moi.
Oui, bah, est-ce que c'est sûr que là tu t'attaquais quand même à un historique très fort d'une manière de faire, etc. Et ça nous amène justement au deuxième principe qui est, t'en as un petit peu parlé, hein, c'est vivre caché pour donner une chance à ses idées. Et c'est vrai que quand on s'attaque à si gros, le monde de la mutuelle est quand même structuré avec des acteurs qui sont là depuis longtemps, ouais, qui ont leur manière de faire, qui sont très ancrés. Et toi, t'arrives, tu dis, bon, en fait, on peut peut-être faire différent.
Ouais, alors effectivement, vivre caché, ça c'est plus lié vraiment, je pense, à tout intrapreneur se trouve au tout début de l'émergence de son idée, avant même que ça devienne un service, une solution ou même un business. Il y a un moment où il faut que l'idée, elle émerge. Et cette idée, pour émerger, il faut pouvoir lui laisser la capacité d'émerger. Le problème d'un groupe dans lequel il y a des processus, une organisation, ce qui est normal, hein, à l'échelle d'un grand groupe, c'est normal que tout ça se met en place, mais c'est des processus qui ne peuvent pas laisser la place à l'émergence d'une idée. Donc le vif caché, c'est pas quelque chose qui est contre l'organisation, c'est justement plutôt comment est-ce que on met une petite cloche au-dessus de cette idée pour essayer de la laisser germer. Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir, mais d'ailleurs, nous, je ne sais pas si on a réussi ou pas, en tout cas, on a réussi à créer quelque chose, à lancer quelque chose, mais au démarrage, elle est hyper sensible, cette idée, et si on n'est pas focus sur la faire grandir, l'alimenter, la tester, itérer sur ce que cette idée veut dire concrètement en termes de proposition de valeur, en termes de service, en termes de solution, en termes de positionnement, si on passe notre temps à aller expliquer notre idée à des gens qui ne sont pas forcément convaincus ou en tout cas pour qui le logiciel ne permet pas de donner place à cette idée, c'est aussi une perte de temps et d'énergie. Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, bon, là, à l'époque j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs qui m'avaient dit en fait juste focus. Et le jour où ton idée elle commencera à prendre du corps et qu'elle sera un peu plus concrète et plus solide, là tu pourras aller la présenter. Mais du coup, le vivre caché, pour nous, c'était les trois premiers mois. Ce qui était un peu.
Ça va,
c'est. Un peu sympa. Bah,
en même temps,
ça a duré 3 mois au démarrage. Plus ensuite, on était un peu moins caché, mais on est quand même resté très, très, très isolé opérationnellement parce qu'on voulait aussi être focus sur le projet.
Oui, parce qu'en plus, là, c'est ce qui est assez différent de ce qu'on peut voir dans l'intrapreneuriat en général, c'est que là, tu ne cherches pas à créer une structure sur un petit aspect, ouais, de l'offre du grand groupe, quoi. Enfin, potentiellement, tu es un petit peu concurrent, quoi, de.
Bah, au-delà du sujet concurrent, c'est vrai qu'on avait le côté un peu où c'est là où on nous a pris un petit peu pour des fous, c'est vous voulez reconstruire une mutuelle de la feuille blanche.
Ouais, parce que le coût d'entrée est énorme.
Ou effectivement, si on a été présenté cette promesse, c'est parce qu'on avait aussi certains éléments qui nous permettaient de dire qu'il y avait deux voies possibles. Enfin, il y a deux voies possibles aujourd'hui pour les acteurs de la protection sociale pour se moderniser. Soit on modernise l'existant avec des plans de transformation, des gros sujets, enfin là, des gros navires organisationnels auxquels j'ai participé en tant que consultant, en tant que chef de projet, etc. Bah, soit on décide d'avoir un autre modèle qui est le modèle reconstruction from scratch, qui lui est aussi porté par d'autres éléments d'accélération. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine folie, effectivement, pour certaines personnes qui nous regardaient en disant « Mais pourquoi ?» Pourquoi reconstruire un moteur, on en a déjà 4 qui fonctionnent. Enfin, c'était un peu ça les réactions. Donc oui, ça c'est vrai que c'était ce qui rendait on va dire, la proposition dérangeante, parce que effectivement, elle venait adresser le cœur de métier des acteurs de la protection sociale.
Ouais, parce que là, c'est une disruption de l'interne, quoi.
Exactement, mais après, je pense que c'est aussi... alors, j'ai souvent eu ce débat avec notamment d'autres collègues, et ex-collègues maintenant, mais du groupe, sur le fait que penser comme ça, avec un autre axe, une autre vision, c'était aussi penser dans une approche groupe, indirectement, parce que c'était aussi créer une autre voie possible d'innovation, de modernisation, de transformation. Puis j'irais même au-delà, on s'est aussi beaucoup intéressé à l'évolution de l'emploi dans le monde de la protection sociale, qui lui aussi est extrêmement impacté par la transformation numérique. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui saisissent des RIB à la main dans des back-office assurantiels ou bancaires. C'est évidemment des métiers qui sont en train de disparaître avec la digitalisation, ce qui n'est pas gênant en soi, mais ça impose quand même de penser les métiers différemment. Et donc c'était aussi des réflexions qu'on voulait apporter pour le groupe et pour les groupes de protection sociale et pour les mutuelles, hein, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard. L'idée, c'est aussi de se dire comment est-ce que ce secteur-là peut se reconcentrer sur le métier, parce que le digital peut permettre de se dire, effectivement, je vais pas avoir forcément des équipes qui vont saisir des RIB, mais plutôt qui vont accompagner des gens. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était assez compliqué de faire comprendre que faire différemment, c'était aussi pour envisager une transfo, un peu contre-naturelle pour certains interlocuteurs. Donc,
j'imagine bien. Alors, si on passe au troisième principe, c'est n'attendez pas forcément l'idée pour intraprendre, car dans les grands groupes, les opportunités de créer se trouvent souvent dans les pain points, les irritants.
Ouais, ça clairement, je pense que pour tous ceux qui ont l'expérience d'un grand groupe, moi j'aime bien dire que je suis pas un entrepreneur visionnaire comme des Steve Jobs ou des Zuckerberg qui vont créer des solutions qui vont vraiment changer la vie de plein de gens. Par contre, quand on est dans un grand groupe, on voit des process inutiles, on voit des inefficiences, on voit plein d'irritants du quotidien qui fait que c'est galère de faire notre job, etc. Et la meilleure source pour intraprendre, en tout cas pour apporter de la valeur, parce qu'intraprendre, c'est d'abord créer une nouveauté ou résoudre un point de douleur, c'est de se concentrer là-dessus. Parce que dans un grand groupe, un pain point qui vaut quelques heures par jour pour chacun des collaborateurs à l'échelle de milliers de collaborateurs, ça vaut tout de suite le coup de s'y pencher.
Ouais.
Et les pain points, en plus, ils sont sous nos yeux. Il y a juste à aller demander. Nous, on fait très souvent les ateliers qui sont très centrés points de douleur. Dites-nous quels sont vos points de douleur, divers et variés, sur vos outils, vos process. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a été écouter et les clients et les différents acteurs aujourd'hui qui composent la chaîne de valeur d'un assureur ou d'une mutuelle pour comprendre c'est quoi leur point de douleur au quotidien. Et en fait, c'est autour de ça que nous, on a tiré la conclusion qu'il fallait déjà qu'on reconstruise la feuille blanche, qu'on digitalise, parce que le digital, c'est d'abord aussi penser utilisateur, simplification des usages pour les clients, mais pas que. Aussi pour les équipes internes, parce que très souvent, ça fait 15 ans qu'on se concentre sur l'UX en B2C. Depuis un petit peu moins d'années, mais quelques années, et ça s'accélère depuis le Covid, on se dit c'est quoi l'expérience collaborateur, quels outils il a pour travailler et bien faire son job, parce que lui-même, à force d'avoir tout en trois clics sur son téléphone, au boulot, il ne veut pas se retrouver avec des outils qui sont extrêmement complexes à gérer. Donc dans les pain points, c'est hyper intéressant, et ça vaut pour un service ou une amélioration, mais c'est souvent là où on va retrouver l'opportunité de créer quelque chose, de simplifier quelque chose, de créer de la valeur, d'optimiser un processus, d'optimiser un service auprès d'un client. Et quand on crée une boîte, on n'a pas de pain point au démarrage, où on essaie d'aller les déceler, etc. Là, dans un grand groupe, ils existent, ils sont là, ils ont le mérite d'exister, entre guillemets, mais du coup, c'est une très bonne source pour dire, tiens, moi, je vais m'adresser à ce pain point, et je sais pas, on va peut-être construire une solution, ça peut être un process, un business, un service, une solution.
Et là, dans le cas de Jagi, c'était quoi, si tu peux nous donner un pain point en particulier, tu vois, où tu t'es dit, là, il y a vraiment des choses à faire.
Il faut voir que pour Jagi, on a fait vraiment le tour, on a fait la grande roue des différents interlocuteurs. Il y a les assurés, il y a les entreprises, leurs salariés, il y a les individus, leurs familles. Donc déjà, il y a une grande catégorie de pain points. Après, il y a les équipes internes, les conseillers commerciaux, les conseillers, ce qu'on appelle les gestionnaires, qui sont en gestion des contrats, des liquidations, prestations, etc. On a les équipes marketing qui créent les offres. On a les équipes data qui analysent la data pour tout ce qui est production de données au sens assurantiel du terme. Le point commun qu'on a retrouvé entre tous, c'est le sujet de la donnée et de la qualité de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, en assurance, la matière première, c'est de la donnée. Et le fait de bien la maîtriser et de la voir sous les yeux, ça permet aussi de bien faire son métier, pour bien accompagner un adhérent au moment où il va souscrire à un contrat, mais également pour bien accompagner un collaborateur qui arrive sur nos outils et qui commence à se former sur un nouveau métier pour lequel il faut avoir quelques clés. Donc le premier sujet autour de la donnée, c'est quelque chose qui est très transverse dans notre reconstruction et qui est vraiment au cœur du réacteur, parce que c'est ce qui va permettre de délivrer pas mal de valeur. Et le deuxième principal pain point, c'est le silotage organisationnel entre les différentes directions, les différentes personnes, qui finalement connaissent assez peu le métier, les enjeux et les problématiques de la personne qui est juste à côté de lui, ou alors à quelques mètres. Et c'est ce décloisonnement en fait qui est aussi source de pas mal de... Enfin, en tout cas, ce cloisonnement est source de beaucoup de pain points. Donc, envisager ce sujet-là en le décloisonnant, notamment grâce aux approches UX-centric, product-centric, ça permet aussi de trouver pas mal de sources. Donc, je dirais que c'est les deux principales.
C'est déjà pas
l'absence
mal.
De partage d'infos et la data, et ils sont extrêmement liés. Et puis, je pourrais en avoir des kilomètres sur d'autres sujets, plutôt techniques, au niveau de la... On va dire de l'évolutivité des systèmes d'information, la robustesse de certains systèmes, enfin voilà, tous ces sujets-là sur lesquels effectivement un petit peu de modernisation
ne fait pas de mal. Alors je te propose qu'on passe assez rapidement sur le quatrième, parce que ouais. Tu en as un petit peu parlé déjà, ouais. C'est sans sponsor on est mort, ouais. Donc ça on le comprend assez bien, même de toute manière pour tout projet. Sans sponsor bien placé, il ne se passe pas grand-chose.
Tout est dit.
mais passons au cinquième, qui est donc s'inspirer et s'ouvrir l'esprit. Si vous ne jetez pas un œil sur ce qui vous entoure, ça va être compliqué d'innover. Vous avez besoin de faire le fameux pas de côté.
Ouais. Bah, justement, ça, c'était un point qui était assez important quand j'évoquais le démarrage de l'aventure avec mon sponsor, où on lui a dit la question de départ, on est tous alignés, c'est quoi l'avenir de notre métier ? Et le deuxième, c'est quelle méthode on va aller utiliser. Et la méthode, c'était d'aller écouter les utilisateurs et puis aller s'ouvrir l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, en tout cas que nous, on a constaté dans le secteur, c'est qu'il y a un certain comportement moutonnier. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder ce qui se faisait ailleurs, mais vraiment ailleurs. Donc dans d'autres secteurs d'activité, d'autres solutions. On a été même rencontré un éditeur de logiciels de back-office pour le SAMU, qui allait assez loin dans sa vision de l'expérience utilisateur, parce que chaque clic économisé, c'était potentiellement une vie gagnée. Donc hyper intéressant de se dire, ah oui, penser à un outil, c'est peut-être pas juste des interfaces et des clics, c'est peut-être aussi une meilleure intervention, on va dire, des secours sur une opération. Donc, assez passionnant. On a été rencontrer des gens aussi assez visionnaires sur des thématiques comme la blockchain. On a été s'inspirer des assureurs en Chine, en Inde, aux États-Unis, qui sont hyper avancés sur plein de choses parce qu'ils sont partis sur des nouvelles techno avec un niveau de maturité beaucoup plus avancé que l'on peut constater en Europe, mais en même temps pas toujours applicable parce qu'on n'a pas les mêmes politiques RGPD,
par exemple, réglementation, etc., bien sûr.
Mais on a été s'ouvrir l'esprit. On a aussi contribuer à ouvrir l'esprit à nos sponsors à l'époque sur des disciplines avec lesquelles ils n'étaient pas familiers. Aujourd'hui, on parle de design UX, UI. Y a encore beaucoup de membres de Comex, en tout cas en protection sociale ou en assurance, qui pensent que l'UX, UI, c'est celui qui met de la couleur sur les écrans. Voilà, c'est un métier où, justement, analyser ce que c'est qu'un parcours utilisateur à travers des interfaces, à travers une interface qui peut être digitale, mais aussi humaine, enfin... Tout ça a été vraiment une ouverture d'esprit aussi qui a permis de vraiment de changer d'air et de se dire que finalement, des problématiques qu'on rencontre dans notre secteur qui est finalement assez fermé, elles peuvent être résolues de manière très simple. Et donc pourquoi pas s'inspirer, parce que commander on va dire un taxi en 3 clics sur une application, pourquoi on ne ferait pas la même chose quand il s'agit de demander un remboursement santé?
Voilà. Tout simplement.
Chose qui paraissent basiques, même si derrière, techniquement, il y a quand même un peu de...
Si c'était si simple. Le sixième conseil, c'est donc de démarrer petit et de créer de la valeur très vite pour continuer d'exister. Et là, si tu peux nous expliquer un petit peu la première phase, ouais. Parce qu'avant qu'on commence, tu me disais là, on arrive dans la deuxième phase.
Ouais.
Donc justement, en quoi a consisté cette première phase et autour de quoi elle s'est structurée?
Ouais, alors effectivement, le commencer petit et se concentrer sur créer de la valeur, nous, ça s'est traduit par des cycles et des itérations de, à chaque fois, 3 mois. À partir du moment où j'ai pitché la première intention de dire on va créer quelque chose, il y a eu des cycles de 3 mois où à chaque 3 mois, on venait présenter les avancées, le concret et la valeur qui a été produite. Donc les premiers 3 mois, à la fin des 3 mois, c'était restitution d'une exploration plus un BP avec une proposition de produit, une roadmap, des besoins de financement, etc. Donc, et du concret, parce qu'il y en avait l'équivalent d'une maquette de l'application mobile de Jaji, en tout cas comme on l'ambitionnait. Et après, tous les 3 mois, à chaque fois, l'idée, c'est d'apporter de la valeur. Soit on a construit une nouvelle partie, une nouvelle brique, une nouvelle solution, ou alors on a été structuré de nouvelles choses, ou alors on s'est planté aussi, on a pu pivoter parce qu'on a fait un sujet, on a creusé un sujet qui s'est avéré être une mauvaise piste. Mais en tout cas, moi, tous les 3 mois, je voyais mes sponsors. Et on restituait nos avancées. Et après, on a continué à appliquer ce principe et on l'applique encore aujourd'hui à travers une méthode qui s'appelle notamment le SAFE. C'est des méthodes qui viennent de l'agilité, même si on n'est pas des purs players de la méthodo. En tout cas, on s'est créé nos propres méthodos. Donc tous les 3 mois, on essaye de se reconcentrer, enfin déjà de démontrer la valeur qu'on a construite. Donc là, aujourd'hui, à l'échelle d'une entreprise, c'est chacune des tribus qui vient restituer les avancées sur les différentes composantes de notre activité, mais au début on avait vraiment ce cycle qui permettait d'être sûr qu'on continuait d'avancer pour les bonnes raisons. Et même sur les 12 premiers mois, tous les 3 mois, c'était option 1, on continue, option 2, on arrête. En tout cas, ce fonctionnement, il était plutôt sain, et il est plutôt sain, parce qu'il faut aussi avoir en tête que quand on crée, tout se passe pas comme prévu, mais l'essentiel, c'est d'être capable de rebondir aussi, pour soit se reconcentrer sur certains sujets, reprioriser d'autres, pour être sûr qu'au début, quand on est encore petit, on a une petite équipe, être sûr que nos énergies sont concentrées au bon endroit. Parce que très vite, on peut se perdre.
Et ça vous a pris combien de temps entre la phase vraiment un peu d'idéation, de tout début, et la commercialisation?
Alors, la naissance officielle Jaji, c'est le 1er juillet 2020, juste sortie de Covid. Petit raté, on devait démarrer en avril, mais le Covid a fait que ça n'a pas pu se lancer. Et ensuite, on a lancé la première commercialisation en bêta en avril 2022. Donc à peu près un an et demi, deux ans. Avec une première version de la plateforme techno, de nos produits. On a encore pas mal de routes sur le sujet. Mais effectivement, au bout d'un an et demi, on a lancé une première souscription de contrat complémentaire santé, géré de bout en bout. Et puis, comme toute structure agile, il y a évidemment plein de choses à ajuster, à améliorer. Et on y travaille. Et là, pour le coup, toute l'équipe est à l'œuvre pour que sur ces sujets-là, on ait une expérience la plus fluide possible.
Je te propose qu'on passe au septième conseil, qui est plus un conseil sur l'interne, là, pour le coup, qui est la fausse bonne idée, c'est de se reposer sur l'organisation de la grande entreprise. Alors, t'en as un petit peu parlé déjà, mais justement, comment est-ce que toi, t'as voulu insuffler une nouvelle dynamique au niveau de l'organisation? Comment ça se passe un peu aujourd'hui chez Jaji?
Ouais, alors ça, c'est des trucs très pratico-pratiques, en fait, parce que les process d'une entreprise... Comme je le disais tout à l'heure, grande taille nécessite processus, organisation entre les différentes directions, etc. Et quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps. de demander, je sais pas moi, 38 validations pour faire le paiement d'une facture à 20 euros par différents outils, différents process. Vous n'avez pas le temps, il faut avancer, il faut être focus. Et là, pour le coup, tout entrepreneur vous dirait, mais enfin, je veux dire, t'as une facture à 20 balles à payer, tu la payes et t'avances. Et donc, la fausse bonne idée, effectivement, de dire, bah ouais, mais il y a un groupe qui est robuste, qui est hyper en place, et il y a des process qui, sur lesquels on peut effectivement capitaliser avec des synergies. Moi, je trouve qu'au démarrage, c'est la fausse bonne idée parce que ça nous fait perdre du temps. Et du coup, ça nous, voilà, ça nous déconcentre sur l'objet pour lequel on va dire, on se lève le matin en démarrage, à savoir faire germer cette idée, la faire grandir, et les contraintes. Bon, j'ai envie de dire logistique, il faut les limiter un maximum au moins au démarrage. Et après, on y viendra. Et là, d'ailleurs, on voit qu'il y a des synergies intéressantes quand on commence à se structurer, l'outillage du processus. Mais au tout début, c'est plutôt un risque. Et moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Alors, des fois, c'était pas trop compris. Parce qu'on m'expliquait, mais attends, on a des super outils, pourquoi tu prends pas nos outils? Je dis, bah, je sais pas, parce que moi, en trois clics, là, j'ai une solution digitale et ça fonctionne le lendemain. Et puis, j'ai la main pour avancer, pour faire tourner la structure, en fait, tout simplement. Une facture, elle peut ne pas être payée pendant 3 mois. On va dire qu'il y a la lourdeur administrative qui fait que, mais moi, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir avancer avec des partenaires qui me suivent et donc qui sont réactifs, etc. Donc voilà, c'est vraiment au début, c'est une mauvaise idée dans le sens, et ça, c'est juste lié aussi à mon expérience, mais je pense que c'est des choses que j'ai beaucoup entendues il y a 2 ans quand je me lançais en tant qu'entrepreneur, et j'ai beaucoup lu, écouté, assisté à des podcasts de personnes qui parlaient justement de cette expérience autour de l'entrepreneuriat, et c'est clairement un conseil qui revenait assez souvent.
Alors, je te propose qu'on passe au. On reviendra sur le 8e après, mais le 9e conseil que tu donnes, c'est ne pas hésiter à créer son propre modèle social et sa culture d'entreprise, qui permet justement de continuer un petit peu sur l'interne. Ouais. Comment ça s'est fait au fur et à mesure chez Jagi? Parce que j'imagine, enfin, peut-être que je me trompe, au début, tu n'avais pas forcément d'idée très, très arrêtée sur le sujet.
Ben, c'est là où moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'assez vite, on a vu qu'on allait créer une boîte. Et même dans les premiers mois, avant même d'aller pitcher le deck d'investissement à ce qui est mon board aujourd'hui, on a eu l'occasion de passer une demi-journée à réfléchir à ce que serait notre modèle social, mais au sens large. C'est-à-dire, c'est quoi la proposition de valeur de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, dans les composantes de sa culture, de ses processus, c'est quoi l'entreprise dans laquelle on va bien se sentir finalement, parce qu'on va apprendre, on va grandir, et puis on va avoir quand même la possibilité de continuer aussi à s'épanouir dans sa vie perso, sa vie pro. Enfin voilà, moi j'étais aussi au début de ma vie de jeune papa à l'époque, et donc je me suis dit c'est super bien de bosser et d'être stimulé intellectuellement dans le cadre pro, mais j'ai aussi envie d'avoir un cadre familial qui respecte tout ça, donc on s'est posé. Et on a posé quelques slides, parce que bon, ancien consultant oblige, quelques slides sur le sujet pour réfléchir à ce que c'était que la proposition de valeur de l'entreprise Jagi dans son modèle social, à savoir où est-ce que l'on place les salariés et la politique salariale dans la stratégie de l'entreprise, comment on voit la formation, comment on voit l'engagement des collaborateurs. Donc tous ces sujets-là, on a pu un peu poser une espèce de modèle, et puis après, il a fallu le mettre en place. Et il s'avère que, à la fois, c'était hyper agréable d'avoir eu cette réflexion, parce qu'il y avait un peu cette guideline en tête, de « on sait un peu où on veut aller », pardon. Et puis après, il y a la vraie vie où ça se passe pas tout de suite, quoi. C'est pas parce qu'on a eu envie d'être une entreprise à mission engagée, avec une politique salariale hyper favorable, etc., que dès le début, on peut tout mettre en place, comme un grand groupe pourrait se permettre de faire, là, pour le coup, oui. À coup de dispositifs RSE, etc. Et donc nous, on l'a mis en place après petit à petit. Et là, ça a pris un peu plus de temps que juste la demi-journée où on a rêvé un peu de ce que serait le cadre idéal de justement cette entreprise à mission, donc qui s'engage et pour ses salariés dans son modèle, pour ses clients et pour la société civile au sens large. Et c'était un chouette moment, j'avoue, d'avoir pu réfléchir à ça au début. Parce qu'une fois qu'on est parti dans la moulinette de l'entrepreneuriat, On est aussi beaucoup dans l'exécution, on a un peu moins le temps de s'y poser.
Oui, parce qu'en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que les fondateurs, ils pensent quand ils arrivent à une taille critique, autour de 40-50, ils sont en très forte croissance, et puis en fait, c'est très difficile en fait, de prendre du temps à ce moment-là. Donc c'est vrai, au moins de l'avoir fait au début, ça pose les bases, et puis tu peux y revenir et travailler dessus.
Et il y a peut-être un sujet qui était intéressant, qu'on a posé à l'époque, c'est... C'est quoi, alors non pas le portrait robot, mais c'est quoi le portrait des collaborateurs qui vont rejoindre cette aventure? Quel trait on va aller chercher? Parce que ça va aussi driver notre politique de recrutement, etc. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment perdu, parce que c'est plutôt des traits autour de la curiosité, autour de l'envie d'apprendre, l'envie de partager. Assez paradoxalement, j'avoue que j'en suis assez fier. Tout le monde a un shadow CV chez Jagi, avec soit un autre métier parce que reconversion, soit une autre passion à côté avec pas mal d'engagement. Et on s'était amusé d'ailleurs en séminaire à faire ce shadow CV, et c'est une toute autre activité que Jagi porterait. Et c'est effectivement des sujets qui nous permettent aussi derrière de l'assumer beaucoup plus dans le quotidien, dans les partis pris que l'on a sur le recrutement, sur le choix de profil, sur la diversité que l'on souhaite diffuser au sein de l'entreprise. Mais voilà, je reviens sur le point qui était quand on est dans la moulinette et dans la machine à laver de l'entrepreneuriat, on n'a plus le temps d'y penser, et c'est bien de se dire oui, j'avais ce petit truc là où on avait un peu réfléchi, et je me rattache un peu à ce cap. On est encore au milieu du guet, on avance, mais on n'a pas perdu de vue l'intention.
Je mettrai dans les notes de l'épisode, il y a un livre blanc qui était sorti sur qu'est-ce qu'une entreprise engagée, ouais. et dedans, je pense qu'il y a ça doit être un petit peu le fruit de la réflexion avec les comportements, les différentes valeurs,
le culture canvas, ouais, le petit exercice là pour le coup qu'on a fait au bout d'un an et demi.
D'accord.
Donc c'est la deuxième étape.
Ça, c'est la deuxième étape.
La première étape, c'est celle que j'avais posée un peu tout seul dans ma tête avant de lancer l'entreprise. Et cette deuxième étape, on l'a fait avec l'équipe.
D'accord.
Et justement, c'est la question qu'on s'était posée, c'est quelle culture on a déjà construit ensemble. Ça fait un an et demi qu'on bosse sur un projet qui naît. Donc la culture d'entreprise, elle se crée aussi, parce qu'une boîte qui n'existe pas n'a pas de culture encore au démarrage. Et là, la question qu'on a posée, qu'on s'est posée, c'est quoi la culture qu'on a déjà bâtie jusqu'à aujourd'hui, et c'est quoi celle qu'on veut continuer de construire, en tout cas, comment est-ce qu'elle va s'exprimer, pardon. Et ce petit exercice, il est assez sympa, moi je recommande en tout cas toute équipe ou toute entreprise qui se structure de faire cet exercice et de le faire collectivement. Ça permet en fait de dépersonnaliser la culture d'entreprise, qui n'est pas juste une vision d'un fondateur, et moi c'est pas du tout ma vision des choses, mais qui est bien la vision d'un collectif qui porte aussi, moi c'est ce que j'explique à chacun quand ils nous rejoignent, c'est un peu le contrat moral en fait qu'on se fixe entre nous, peu importe notre rôle dans l'organisation, c'est comment est-ce que l'on veut, on va dire, évoluer, et avec quel cadre on veut évoluer dans l'entreprise en tant que personne, en fait, tout simplement.
Ouais, bien sûr.
Peu importe la hiérarchie, peu importe le rôle, peu importe les périmètres d'activité.
Alors, avant qu'on ne passe à l'entreprise à mission, dernier conseil qui est d'intraprendre pour scaler son impact.
Ouais.
Là, j'imagine que c'est un peu la phase dans laquelle Jagi est en ce moment, quoi.
Exactement. Exactement. Moi, j'avais rencontré à l'époque, je me souviens plus de son prénom, mais une personne qui m'avait un peu vanté l'avantage de pouvoir bénéficier des accélérateurs de la jeune pousse, mais tout en ayant en tête la possibilité que peut apporter un grand groupe en termes de passage à l'échelle. Parce qu'effectivement, toutes les jeunes pousses et start-up qui ont... trouver leur marché avec un produit qui fonctionne, après ils lèvent beaucoup de fonds pour aller chercher leur marché, et donc pour avoir de l'impact, il y a un moment il faut quand même aller toucher plus de clients, en tout cas ça c'est ma conviction, et l'avantage de l'intrapreneuriat, c'est qu'il y a un grand groupe souvent qui est derrière avec des perspectives, alors elles sont pas écrites, hein, mais nous on est au début aussi, donc j'espère qu'on va les écrire, il y a des perspectives de synergie qui sont intéressantes, mais maintenant c'est aussi à nous de réussir à les déclencher, à les rendre plus concrètes.
Merci de votre écoute, j'espère que la première partie de cet épisode vous aura plu. La seconde, consacrée à l'entreprise à mission surtout, arrive dans quelques jours pour les plus rapides, et pour les autres, elle est probablement déjà en ligne. Normalement, elle démarre tout de suite après. Avant de partir, j'ai une petite faveur à vous demander. Pourriez-vous noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify et laisser un commentaire sur Apple Podcast ? Alors, c'est peut-être un petit geste, mais en fait, c'est hyper utile car ça permet d'améliorer le référencement du podcast et de le faire découvrir à plus de monde. J'en profite également, si vous avez des recommandations d'invités, que ce soit des entreprises à mission ou des experts thématiques, je suis preneur. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn et me faire part de vos suggestions. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.